La bibliothèque orbitale, saison 2, épisode 4. Résumé de l'épisode précédent, la situation est grave et même désespérée. Maintenant que Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, est mort, qui empêchera le mal, le crime et les idées de gauche de proliférer partout dans la galaxie ? La situation est d'autant plus grave, et même désespérée, que la disparition de Pitou semble avoir sonné le début d'une chasse aux héros qui a d'ores et déjà fait ses premières victimes. Ainsi de Zaza, le grand commissaire sidéral, qu'on a retrouvé pendu par les pieds à un panier de basket, ou de Minette, le fracassant gardien galactique, dont on a retrouvé des bouts d'organes disséminés de Strasbourg à Kiev. Il est à craindre que ces meurtres sordides ne soient que les premiers d'une longue liste. Pendant ce temps, Solange Pitou, l'inconsolable veuve de l'intrépide gladiateur cosmique, et Kevin Pitou, sa boutonneuse engeance, n'ont pas fini de sécher leurs larmes qu'un nouveau drame s'abat sur eux. Ils ont reçu la facture de l'enterrement des 713 882 cadavres de Pitou qu'on a retrouvés, dernier chiffre officiel que nous a fourni la préfecture. Effondrée, Solange se demande comment payer une somme pareille, lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur se rend compte qu'on est déjà en mars et qu'il est un chouïa en retard sur son programme. Ce qui ne l'empêche pas de déboucher une nouvelle bouteille de Riesling, la troisième de la journée, il n'est pas encore midi, avant de s'attaquer à la pile de livres qui l'attend, pile comprenant Rétrofutur de Raphaël Colson, L'horloge nucléaire de Lee Smith et Destination Univers, l'anthologie dirigée par Jean-Claude Duniac et Jeanne A. de Batz. Avec leur bibliothèque des miroirs, les moutons électriques continuent de proposer à peu près ce qui se fait de plus intelligent en matière d'essais consacrés au genre qui nous intéresse ici. Le dernier en date s'intitule Rétrofutur et il est signé Raphaël Colson. Rétrofutur vient compléter et prolonger le travail d'Étienne Barillet sur Steampunk, paru il y a 2 ans dans la même collection. Mais au 19e siècle victorien auquel était consacrée une bonne partie du précédent ouvrage, Rétrofutur lui préfère la première moitié du 20e, abordée au travers de sous-catégories baptisées de patronymes aussi improbables que Dieselpunk, Atompunk ou Teslapunk. Autant de dénominations franchement couillonnes qui ne sont pas du tout le fait de Raphaël Colson, et qui auraient plutôt tendance à disqualifier d'office les œuvres qui s'y rattachent. À tort, puisqu'on y trouve des choses assez formidables. Là où le steampunk revisite le 19e siècle et donne un méchant coup d'accélérateur à la révolution industrielle, en empruntant son imaginaire aux grands auteurs de l'époque, de Wells à Verne, les œuvres qu'étudie ici Raphaël Colson vont plutôt chercher leur inspiration dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, dans les pulps et les céréales de l'entre-deux-guerres, ou dans la culture américaine des 50s. Ce sont des œuvres aussi différentes que Captain Sky et Le Monde de Demain, un magnifique film de 2004 qui à l'époque s'était méchamment vautré au box-office, Les Cités Obscures de François Schuiten et Benoît Peters, l'univers de Hellboy de Mike Mignola ou La Brigade Chimérique de Lehman, Colin et Jess. Raphaël Colson et la douzaine de collaborateurs ayant participé à l'élaboration de Rétrofutur s'intéressent aux genres sous toutes ses formes, romans, BD, films, animés, comics, jeux vidéo ou jeux de plateau. Et la dernière partie de son étude élargit encore son sujet pour s'intéresser au graphisme, au design automobile ou au développement sur Internet de communautés passionnées par le genre. Et de même, Colson va puiser les œuvres qui l'intéressent tant aux États-Unis qu'au Japon ou en Europe. Le livre est sans doute loin d'être exhaustif, ce n'est d'ailleurs pas son but, mais il offre en tout cas une palette assez impressionnante d'œuvres extrêmement variées. Ce qui surprend à la lecture de Rétrofutur, c'est le peu de place qui occupe la littérature. Autant le steampunk a donné naissance à un nombre considérable de romans et de nouvelles, autant les périodes postérieures semblent avoir assez peu inspiré les écrivains. Raphaël Colson souligne pourtant l'importance dans la jeunesse du genre d'un texte de William Gibson, trop souvent sous-estimé, le Continuum Gernsback. Mais le rétrofuturisme s'est surtout développé dans d'autres arts, en particulier la bande dessinée et les comics aux États-Unis. Plusieurs chapitres sont consacrés à quelques œuvres parmi les plus belles et les plus novatrices, des œuvres malheureusement méconnues en France, notamment la série Starman de James Robinson, ou les différentes créations de Dean Motter, de Mr. X à Electropolis. En 400 pages bien tassées, Raphaël Colson ne parvient pas à épuiser son sujet tant celui-ci est vaste. Il parvient néanmoins à en tracer les grandes lignes, à identifier les principales tendances et à étudier les œuvres les plus intéressantes auxquelles le genre a donné naissance. On sort de la lecture de Rétrofutur avec une méchante envie de faire chauffer sa carte bleue et de se procurer dès que possible quelques quintaux de bouquins, de BD et de DVD. Commencez déjà par vous procurer ce livre, c'est une merveille. Un nom qui ne figure pas dans le livre de Raphaël Colson, c'est celui du Dr. Wu. On pourrait pourtant, par certains aspects, rattacher cette œuvre au rétrofuturisme, notamment dans la manière dont la série, quand elle a été relancée en 2003, a repris telle quelle l'esthétique qui était la sienne à sa création au début des années 60. C'est ainsi que, presque un demi-siècle après leur première apparition, les Daleks continuent de ressembler au croisement improbable entre une auto-tamponneuse et une râpe à fromage, les Cybermen grincent toujours autant quand ils remuent leurs membres, et bien entendu, le Docteur lui-même continue de se déplacer à travers le temps et l'espace à bord de sa police box. Une esthétique totalement anachronique qui n'empêche pas la série d'être d'une grande modernité. Si je parle du Docteur Wu, c'est que les éditions Milady ont lancé en début d'année une collection qui lui est entièrement consacrée. Les romans en question mettent en scène la plus récente incarnation du personnage, interprétée à l'écran par Matt Smith, accompagnée d'Amy Pond et de son fiancé Rory Williams. Quatre titres sont parus à ce jour, dont le plus récent s'intitule L'horloge nucléaire et est signé Holly Smith. Ce roman, comme les précédents d'ailleurs, reflète plutôt bien le côté décalé et farfelu de la série. Il est cette fois question d'une banlieue américaine en apparence banale, mais peuplée d'androïdes meurtriers, d'un savant aussi génial que dingue, d'une remontée du flot temporel à contre-courant et de l'explosion d'une bombe nucléaire. Le tout en 280 pages suffisamment remuantes pour qu'on ne s'ennuie pas. C'est loin d'être une lecture indispensable, mais ça reste conseillé aux fans de la série qui auraient une heure et demie à occuper dans les transports en commun, et je sais de quoi je parle. Quittons la Terre pour rejoindre les étoiles avec Destination Univers, une anthologie de space opéra concoctée par Jana Debats et Jean-Claude Duniac, parue chez Griffe d'Encre. 8 textes au sommaire, 4 signés d'écrivains reconnus et 4 autres dus à la plume de parfaits débutants ou presque. Le mélange pouvait a priori sembler risqué, et il était permis de craindre que les textes des amateurs, tous membres du collectif Cocyclique, fassent pâle figure à côté de ceux des pros. Et en fait, pas tant que ça. On en trouve même au moins un qui se classe aisément parmi les deux ou trois meilleurs du recueil, c'est le bal des méduses de Celia Dayana. L'histoire de deux enfants, Manu et Noé, qui se retrouvent perdus dans l'espace, entourés par une meute de créatures monstrueuses. Non seulement la construction du récit est impeccable, mais l'univers qu'elle met en scène est tout à fait intéressant. Il n'y a que la conclusion du récit qui soit un poil décevante, mais dans l'ensemble on tient un texte assez remarquable, qui donne très envie de lire d'autres textes de cet auteur. Les nouvelles des trois autres débutants sont un ou deux crans en dessous. Évaporation et sublimation d'Anthony Boulanger nous raconte en 20 pages, là où il en faudrait 400, et avec beaucoup de maladresse, une guerre entre les terriens et des créatures stellaires. Le Gambit de Hunger d'Olivier Jechter est un western spatial plutôt bien foutu, mais qui manque quand même un poil d'imagination. Quant à Aurélie Ligier, auteure du Marathon des Trois Lunes, elle montre une belle maîtrise stylistique en signant des pages pleines de sang et de fureur, mais son intrigue ne me semble pas être à la hauteur. Du côté des pros, le résultat est là encore assez inégal, mais dans l'ensemble d'un bon niveau. Je dois avouer ne pas avoir été tout à fait convaincu par le Khan Mergen d'Olivier Paquet, qui met en scène une civilisation mongole sur un monde lointain. Le cadre est étonnant, l'intrigue tient la route, et ça me donne plutôt envie de lire son roman apparaître à la Talente et situé dans le même univers, mais la nouvelle laisse trop de questions en suspens pour être vraiment réussie. J'ai été davantage convaincu par Sleeping Beauty d'Anne Fakhouri. Un drame familial, ce qui ne devrait pas étonner ceux qui ont lu Narcogenèse, dans lequel un couple se déchire autour de leur enfant et d'un clone illégal. Le seul reproche qu'on pourrait faire à ce texte est le même que celui que je faisais à Olivier Jechter, à savoir le manque d'inventivité du cadre dans lequel se déroule cette histoire. Les deux meilleurs textes du recueil, avec celui de Celia Dayana, sont l'œuvre de Thomas Géa et de Laurent Jeunefort. Le premier signe une nouvelle, Les Tiges, qui se déroule dans le même univers que La Guerre des Chiffonneurs, roman dont je vous ai déjà parlé ici même. Sauf que si La Guerre des Chiffonneurs est une couillonnerie fort sympathique, mais une couillonnerie quand même, Les Tiges est un texte d'une toute autre ambition, dans lequel l'humanité se trouve coincée entre deux races extraterrestres qui s'affrontent. Le ton est très sombre, et tout en jouant parfaitement avec tous les codes du space opéra, Thomas Géa est parvenu à créer un univers particulièrement original. Et du coup, je retire tout le bien que j'ai pu dire de La Guerre des Chiffonneurs, et j'invite l'auteur à arrêter tout de suite les couillonneries et à poursuivre dans la voie ouverte par ce texte, parce que s'il s'en donne la peine, Thomas Géa me semble avoir les capacités de figurer parmi les meilleurs écrivains de SF français. Et puisqu'on parle des meilleurs écrivains de SF français, terminons par Laurent Jeunefort et ses Dieux bruyants. Le genre de rencontre entre humains et extraterrestres dont il a le secret, qui vaut pour la richesse de la description de cette forme de vie totalement différente de la nôtre, de sa culture, de son environnement ou de ses modes de communication. Dans le genre, c'est une petite merveille. Bref, Destination Univers est une anthologie de très bonne tenue, allant du peut mieux faire au touche plus à rien, c'est parfait comme ça. Et comme dans l'ensemble, le waouh l'emporte largement sur le bof, je conseille.
Saw you coming through the-